t'imagines si toutes les histoires des aînés, ça se passait dans le futur?
C'était quoi la place des grands-parents et des grands-mamans? Comment c'était les aînés à votre époque? Ils avaient quoi comme rôle?
Alors, moi j'ai pas connu, j'ai connu que mon grand-père, les autres. De toute façon, même les mamans étaient à la maison, les grands-mères étaient à la maison aussi, donc c'était. On n'avait pas de problème de garde d'enfants, de crèche ou de choses comme ça. Les grand-mères gardaient les enfants, s'occupaient.
D'ailleurs, je trouvais ça très bizarre que quand j'ai eu ma fille aînée, il fallait que l'emmener à la crèche. Mmh. Je me disais, mais purée, mais pour... en plus, les places sont. C'est compliqué d'avoir une place à la crèche. Mmh. Alors, je me disais, mais j'ai pas connu ça quand j'étais petit. Il n'y avait pas ce genre de problème, donc j'essaie de me rappeler, mais comment on faisait? Effectivement, c'est ce qu'elle dit, c'est la voisine qui nous gardait quand on n'était pas là. Parce que nos mamans étaient peut-être sorties, et puis à l'époque, il faut dire que c'était assez, patriarcal. Après, c'est devenu matriarcal, c'est pas parce que nous, dans notre milieu, enfin en Martinique, comme je pense que ça s'est complètement étalé un petit peu partout, où il y a beaucoup de familles séparées, beaucoup de... On trouve bizarre qu'il y a des gens qui les coupent durs maintenant. Mmh. Le contraire. c'est vraiment le contraire.
Ouais.
Et ma fille me disait, mais à l'école, je suis gêné de dire que vous êtes toujours ensemble. Tous les parents sont séparés. Donc moi, je n'ose même pas dire. Ma fille, elle n'avait pas de téléphone portable jusqu'à la troisième. Et elle disait, une prof a dit, mais qui c'est qui n'a pas de portable? T'es très gênée, elle a levé la main. Bon, mais c'est pas grave, au moins tu vas regarder sur le portable de ta maman. Mais elle n'a pas osé dire que ma maman n'avait pas un portable. Tu vois, la honte. Elle était... Donc, on arrive à ça, c'est incroyable. C'est triste, quoi.
C'est complètement renversé puisque c'est ce qui permet d'être cool. Moi, mon petit frère, du coup, quand il a eu 12 ans, il était en 6e. Puis il s'est retrouvé à se faire harceler parce qu'il ne pouvait pas jouer à Clash Royale sur son bed. Puis je m'en rappelle d'avoir des moments de crise ultime au repas où il crie, il se met dans des états pas possibles parce qu'il n'a pas de téléphone et que ça le fait souffrir de ne pas avoir de téléphone. Puis on en a reparlé, parce que maintenant il a 20 ans, puis il me disait, mais putain, c'est fou, parce que c'était vraiment nécessaire, quoi. Si j'avais pas ça, j'étais rien, tu vois.
Deux nièces qui font tout à fait différemment. Il y a une, elle n'a pas donné à ses enfants le portable, ses enfants lisent, ils s'intéressent ils sont plus... lecteur que... Et l'autre famille, la cousine, et là, ses enfants, dès le plus jeune âge, ils avaient les portables les plus sophistiqués, tous les iPhones, etc. Et vraiment, c'est très, très différent, le développement de ses enfants, je trouve.
Ils ont des liens avec les autres, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls chez eux, mais ils ont un lien avec, par le biais du téléphone.
C'est ça.
Ça crée des fois une communauté, mais ça ne crée pas l'énergie. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça, moi, je trouve, quand ça éteint un petit peu l'imagination, moi je trouve, l'imagination, on va dire, normalement ordinaire, quoi, qu'on devait avoir, ils l'ont pas, on l'a pas.
Mais c'est comme ça, crée des peurs, je pense, sociales. Je pense qu'on fait plus, je pense que notre génération fait plus d'anxiété sociale, puis quand on est un peu gêné, admettons, on fait une fête, puis on est un peu gêné, on sait qu'on peut sortir notre téléphone, puis aller dans un truc qui nous est confortable, puis genre être sur notre téléphone alors qu'il y a des autres autour pour se sécuriser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au lieu d'aller à la rencontre d'une conversation parce qu'on est...
On est trop gêné d'aller parler au monde, maintenant on fait que tu te renfermes, puis t'es comme moi qui se sert.
C'est mon confort, là.
Ça me va.
Ouais.
Et puis pour revenir au conte aussi, je trouve que, enfin moi personnellement, ça m'aide à interpréter le conte différemment, d'avoir connu cette enfance-là, d'avoir grandi comme ça, tout simplement. Oui. Tu vois, c'est plus habité, maintenant on fait des formations pour les conteurs, tout simplement. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être formé pour être conteur, parce que c'est mon enfance, mon vécu. Par exemple, ma grand-mère, comme tu as parlé des grands-parents, ma grand-mère, des fois, nous gardait quand mes parents ne pouvaient pas. Donc, ma grand-mère, elle nous racontait des trucs mystérieux qui se passaient dans le quartier. Parce qu'ils sont très superstitieux, tu vois. Attention, il y a des esprits par là, il y a des zombies, tu vois, des gens... Il y a des dolis, c'est des gens la nuit qui se frottent avec de l'huile et puis qui sont capables de rentrer chez toi et qui tu les vois pas, tu vois. Et donc, il y a tous ces phénomènes-là, les soucougnants, c'est pareil, c'est des femmes qui se transforment en oiseaux, ou bien qui, c'est des invisibles, il y a un monde invisible. Donc, ils nous racontaient ça, donc du coup, on n'osait pas sortir de la maison.
Donc,
ça marchait bien, elle n'a pas besoin d'avoir une œil sur nous, elle se reposait, elle s'est restée là. Wow.
C'est fou. Hey, c'est beau le monde invisible. Ouais. Vous avez vraiment grandi dans des superstitions, vous diriez, avec ce monde de l'invisible qu'on vous racontait.
Ah oui.
Puis ça nourrit justement l'imaginaire.
On était excités, ça nous faisait frissonner, tu vois.
Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des trucs qui vous ont fait penser que ces créatures existaient alors dans vos vies?
Moi j'ai déjà vu ça.
C'est beau.
Ouais.
Et alors, comment est-ce que vous diriez que en Martinique, il y a une importance qui se fixe sur la langue, puisque par exemple ici au Québec, je ne sais pas si vous avez discuté un peu avec des Québécois et tout ça, mais il y a une grande place à la francophonie et au fait de garder le français québécois, genre de le préserver, parce qu'ils se font avaler par l'Amérique États-Unis. Comment est-ce que vous vivez le rapport à la langue en Martinique?
Alors nous, moi quand j'étais petite, c'était interdit de parler créole parce que...
Excuse-moi, il y a des toilettes?
Ouais,
je peux...
t'as des toilettes juste au bout, dans la salle de bain.
Ok.
Le créole était considéré comme la langue de la culture. Ceux qui ne savaient pas, enfin si tu voulais accéder à la culture, c'est le français, il fallait parler français, aller apprendre à l'école, etc. Donc c'était pratiquement interdit pour certaines personnes. Mon père m'a parlé créole, j'avais 26 ans. Vraiment, pour lui, élever ses enfants, c'est leur donner le français, la langue qui va te sauver, quoi, qui va te faire sortir de la misère par l'instruction. Et voilà, donc j'étais à l'école, les instituteurs te surprenaient à parler créole, tu payais une amende, tu avais une punition, enfin. Il ne fallait pas parler créole.
Ah ouais.
Et voilà. Et puis, quand je suis devenue orthophoniste, je me suis aperçue que c'est catastrophique de interdire le créole. Surtout, justement, les parents sont créolophones. Et donc, tu apprends en t'identifiant à tes parents, mais tu ne peux pas parler leur langue. C'est vraiment... Tu peux pas grandir. Tu peux pas les connaître.
Voilà. Parce que on existe dans nos langues.
Ouais, et la culture aussi, ça passe par la langue aussi.
Mais absolument.
Et toi, quand est-ce que tu as appris à parler créole, alors?
Alors, c'était interdit, mais tu parlais créole, non. Un petit peu, mais c'est vrai, non, pas beaucoup. Mais forcément, on parle créole, les chansons sont, il y a des chansons en créole. Bon, donc tu apprends naturellement sans vraiment. Et puis, mais même quand j'étais au lycée, c'était pas, ça faisait vulgaire de parler créole. Et puis, même Namour, tu vas pas dire faire la cour à quelqu'un en lui parlant créole, il faut parler en français. Parce que...
C'est la classe.
Ouais,
c'est ça, faire des points, c'est pas créole.
Mais moi, j'ai pas. Parce qu'on sortait un petit peu de contexte assez compliqué, je pense. Mais moi, ça a bougé entre temps, ma génération. Donc, on parlait, mes parents me parlaient en créole, je répondais en créole, ça posait pas de problème.
Maintenant, la langue est.
C'est ça. Alors, donc, oui, quand, à ce moment-là, en fait, quand moi j'avais 20 ans. On a commencé, en fait, les jeunes étudiants ont commencé à réfléchir. Il y a eu. C'est là qu'on s'est aperçu que finalement, ben, on nous apprenait les ancêtres, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Et on a commencé à.
C'est à n'importe dire, quoi. Le jeu.
Qu'il fallait qu'on nous parle de notre histoire. Et c'est vers à ce moment-là que ça a commencé à bouger un petit peu.
C'est en quelle année, tu pourrais dire, à peu près?
Alors, je suis née en 47, donc vers 67.
Ouais,
donc, dans les années 70, 60.
Il y a une revalorisation de la langue, en fait. Que toi, du coup, tu as pu...
Voilà. Ouais, j'ai pu bénéficier. Ouais. C'est important. C'est important de pouvoir parler la langue.
Et maintenant, c'est vraiment bilingue complètement, vous diriez?
Oui, parce que ça s'apprend maintenant à l'école. Il y a des cours en créole. Ouais. On écrit le créole, elle est dictée en créole.
Il y a des professeurs d'université. On en a appris le créole à l'université.
Ils se rendent compte de la richesse de la langue maintenant, tout simplement. Donc, par contre, ça pose des problèmes au niveau, par exemple, de certains secteurs, par exemple la médecine, parce qu'il n'y a pas de livre en créole. Donc, on est obligé d'aller vers les livres en français aussi. Pour étudier la médecine. Par exemple, en Haïti, ils n'ont même pas d'école de médecine, il n'y a pas d'université en médecine en Haïti. Donc, ils sont obligés d'aller ailleurs, en Amérique, enfin à l'étranger, même au Canada, pour étudier la médecine. Il y a beaucoup d'Haïtiens ici aussi. Et en Martinique, on a une université en médecine. Maintenant, c'est depuis quelques années, on l'a. Mais malgré ça, ils ne peuvent pas terminer leur cursus complètement. Ils sont obligés de s'expatrier.
Puis les lois sont en français encore, peut-être, non? Est-ce que ça, c'est des lois en créole?
Alors, c'est cette année que le président du conseil régional vraiment demandé, essaye de faire des audio le créole dans les affiches pour il a demandé que ça soit sur le passeport, dans les administrations, quoi. Mais c'est encore
pour
difficile.
Le moment, c'est encore ça.
Difficile.
Ça va venir, vous pensez?
Oui, je pense, avec le temps. Il faut du temps, il faut du temps maintenant, il faut attendre, parce que on est tout encore le début. Peut-être nous, on ne le verra pas, peut-être. Mais nos enfants, après, peut-être nos petits-enfants le verront.
Mais même par rapport au créole, quand le Chimi, le président du conseil régional, fait les gens, il y a des gens qui protestent que cette histoire de parler créole.
Oui, c'est encore dans la tête des gens.
Et ils disent
la propre colonisation.
Et il y a des gens qui te disent, ah oui, mais Aimé Césaire, le grand écrivain, poète et chanteur de la négritude, il a écrit en français.
C'est ça. C'est encore à l'intérieur, quoi.
Et puis, le créole n'était pas écrit. C'est enfin, récemment qu'on a essayé de faire les règles. Il y a encore des... Il y a quand même des écrits qui datent de... des années 70, il y a quand même des gens qui ont écrit des L'homme fou, les Marie-Thérèse L'homme fou. Ils écrivaient en créole, mais français. En fait, avec les règles du français. C'est. Voilà.
Donc, le problème, c'est vrai. Ce qu'elle dit, le problème en créole, c'est quand comme il y a des mots en français dans le créole, c'est assez francisé. Maintenant, c'est francisé. Mais on avait un créole, justement, des anciens, qui était beaucoup moins francisé. Mm-hmm. Tu vois, donc on l'a perdu petit à petit parce que, comme elle dit, ils ont interdit les enfants de parler en créole. Tu vois. Donc ils parlent en créole aux enfants, mais les enfants devaient répondre en français. Mm-hmm. Donc finalement, ils n'ont pas. Et ça c'est complètement ça a changé la langue créole. Mmh. Donc maintenant on essaie de revenir au créole pour pas que ce soit une langue qui est amenée à disparaître tout simplement. Mmh. Parce que si on réinvente pas la langue, c'est même si on parle la langue, comme si c'est pas écrit, si c'est pas c'est parler, mais si c'est détourné complètement, si c'est on utilise trop le français dedans, donc il y a des gens qui parlent pas créole, des blancs des métros qui vivent là-bas, mais comme il y a des mots français, ils comprennent ce qu'on veut dire, tout simplement. Mais le vrai créole, tu comprends rien du tout. Donc tu vois, et je pense que je suis pas créoliste, hein, mais je pense que les gens qui ont comment dire, qui sont docteurs en créole, en lettres, enfin bref, ils pourront mieux vous expliquer, tout simplement. Mais moi, avec moi, ce que je comprends, c'est quand on a intégré, parce que dans toute la Caraïbe, les îles Sainte-Lucie, la Dominique qui nous entoure, Cuba, Jamaïque, même la Louisiane, ils ont du créole aussi, mais le créole est un peu différent. Donc il y a des mots qu'on a intérêt à s'enrichir de ces mots-là pour compléter notre créole, pour l'enrichir. Donc il faut vraiment qu'on l'étudie. Et d'ailleurs, il y a un travail là-dessus. Raphaël Confiant, un écrivain là-bas, il est en train de faire le travail aussi. Il y a des gens comme ça qui commencent justement à faire ce travail-là pour que le créole ne se dénature pas.
Ah oui, oui. Mmh. Parce que dans chacune des places, il y a peut-être des mots qui sont restés dans l'oralité, qui ont disparu ailleurs.
Oui, exactement.
Ah,
il y a des jeunes qui me demandent, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire liénage. Dernièrement, ils me demandaient, mais liénage, ça veut dire quoi? Parce qu'ils ne l'utilisent pas. Ils disent mélanger au lieu de dire liénage. Mélanger, c'est du français.
Ouais.
Tu vois? Donc, quand on dit liénage, ceux qui ne parlent pas créole ne vont pas comprendre ce que c'est, tout simplement. Ouais.
Ah, c'est fou! Oui. Hey, mais merci!
Moi, je dis liénage.
Ouais, tu peux dire liénage. Tu peux dire aussi ça.
Ah, des fois, il y a des petites différences de prononciation aussi.
Des fois, on dit moins pour dire moi. Et il y a des gens qui disent moins. Il y a des gens qui disent moins. Tu vois? Donc moi quand je
parle ton québécois,
mais des fois j'entends le créole dans le
québécois. Fred, les rois vous dites ouais, douette et mon souhait est
Fred.
Fred,
c'est fou.
Ouais, c'est fou, hein.
Ouais,
des fois je dis mais on est un truc incroyable, on parle créole, quoi.
Mais oui. Non, mais c'est un truc de fou.
Mes sœurs sont venues au Canada, elles avaient 10 ans peut-être, et donc ça fait plus de 50 ans quand elles sont venues au Canada. Oh, c'est les Canadiens leur disaient, oh, c'est noir et ça parle français. C'est noir et ça parle français.
Heureusement que les temps changent quand même. Hein. C'est pas vrai.
Mais la colonisation a fait son effet quand même, jusqu'à maintenant.
Hein. Ouais.
Parce que je vois même le mouvement qui se passe en ce moment. Il y a des phrases qui se disent pour les colons. De toute manière, eux, ils savent que boire du rhum et danser le zouk. Ils ne comprennent rien. Donc on leur donne ça. On fait ce qu'on veut. Tu vois. Ouais, basta quoi. encore compris qu'on ne peut pas évoluer. Mais il y a des gens, même c'est tellement ancré en nous, ils ont toujours l'impression que le blanc a plus de savoir que nous, tout simplement. Je t'assure. Ils ont compris, ils ont... C'est vrai. Parce que si tu vas en Martinique, les blancs ont les meilleurs postes. Tu vois.
Mais je me souviens, quand je suis arrivée en France, j'ai vu des clochards à Paris. J'ai fait une photo pour envoyer à ma... Je ne sais pas si j'ai fait une photo, parce que ce n'était pas tellement courant, les photos. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Mais parce que je savais que ma tante, elle n'imaginait pas qu'un blanc puisse être clochard. Pour elle, un blanc, c'était quelqu'un de respectable et de haut placé.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, et je me disais, il faut que je lui montre que... Il y a des blancs qui sont clochards aussi, qui
en réalité sont les mêmes.
Mais oui, exactement. Il y a un copain qui me disait, pareil, il a vu un blanc qui ne pouvait pas faire de l'essence. Il a compris qu'il ne savait pas lire. Mais il m'a dit, mais je n'aurais jamais imaginé ça, alors qu'il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Donc c'est pour te dire, ceux qui nous ont mis dans la tête, c'est incroyable. Tu vois, c'est
forcément, c'est un blanc, c'est quelqu'un de supérieur.
C'est fou. C'est douloureux parce que moi, j'ai l'impression que c'est un chemin immense, qu'il y a tellement de taf à faire, que même nous, à l'heure actuelle, on a encore ce taf à faire. Ça reste imprégné sur toutes nos histoires jusqu'à maintenant, et c'est là encore. Puis c'est tellement... Mais merci beaucoup de parler de ça. C'est tellement important. C'est trop bon.
Tu as quel âge, toi?
Moi, j'ai 22.
D'accord.
Et toi, t'as quel âge alors?
J'ai 77.
77. Toi, t'as quel âge, hein?
Moi, j'ai 57.
Là, vous savez que du coup, donc c'est un podcast qui est diffusé sur une radio montréalaise et une radio française. Puis l'idée là, c'est de sûrement la faire diffuser dans une radio belge. Parce qu'on essaie de toucher la
France. J'espère que vous allez réussir.
Merci. Puis voilà, c'est en général, c'est quand même des gens de ma génération qui écoutent. Et je vous laisse l'espace de qu'est-ce que vous auriez peut-être envie de dire, parce qu'on a peu l'espace aussi. Est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez envie de dire et de raconter?
Je pense qu'il y a une partie de la population qui vit un petit peu les choses similaires que nous en Martinique, que nous sommes, puisqu'on est un peuple qui sort d'une histoire très lourde, l'esclavage. Tous les peuples n'ont pas connu ça, mais ils ont connu la misère aussi. Ils ont connu l'arrogance des plus puissants. Donc ils ont connu l'humiliation. Et ils ont connu aussi le manque de nourriture, le manque de moyens, le manque... Il y a des endroits où ils n'avaient pas de chauffage, il y a des gens qui allaient laver leur linge. Bref, ils ont connu aussi la misère. Donc quand on connaît la misère, on vit des choses qui se ressemblent. Donc je fais pas la distinction par rapport à l'esclavage, ce qu'on a vécu et ce que eux ils ont vécu, tout simplement. Je dirais pas que c'est sur un pied d'égalité, mais en tout cas je me sens pas seul. Et je compatis à ça. Même en France, je remarque qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont mis en esclavage, mais il y a des Français, pendant la guerre, tout ça, qui ont subi énormément et qui ont souffert aussi. Donc, je me sens très proche de ces gens-là, en tout cas. Ouais, c'est un peu ça.
Mais en fait, moi, je trouve que les Canadiens, on a vraiment beaucoup de... Même s'ils n'ont pas connu l'esclavage, mais ils ont connu domination, la déportation, etc. Et j'ai le sentiment qu'on est très proche. Et surtout, dans ce festival-là, on a vraiment approché des gens qui... revendiquent leur culture, qui essayent de se mettre sur un pied d'égalité. ça, on y... on a ça en commun, en fait. Mmh. Et je, dès la première fois que j'ai connu des Québécois, j'ai vraiment, ça m'a frappé. Je me suis sentie plus d'atomes crochus qu'avec les Français.
Mais les histoires de domination, puis même la question des Premières Nations ici, c'est tout ça. La question autochtone, en fait, c'est ça, c'est...
Moi, je ne connais pas assez bien l'histoire du peuple canadien.
C'est très intéressant, c'est vraiment... C'est envie de... C'est fou. C'est fou. Puis c'est encore un sujet qui, lui aussi, est en train de se soigner. Ça va vers le mieux, mais...
Mais
ça.
Je le sens, de toute manière.
Les gens qu'on a rencontrés, même dans le compte, en fait, ils sont...
Parce qu'on lit les livres, mais il n'y a pas... Il n'y a pas mieux de rencontrer la population. Vraiment. Là, on est vraiment dans le concret, on sent les choses.
Ah, vous êtes à trois pistoles, là, vous y êtes. Ah là, je vous y ai quand même. Ah, vraiment. Ouais. Ah, vous avez un bel échantillon du Québec, là.
Oui, exactement.
C'est vraiment beau.
Le meilleur.
Ouais.
En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, vivre les fêlures qu'on a vécues, qu'on a traversées, ça crée une émulation, je veux dire, euphorique. C'est euphorisant. Et donc, ça crée une communauté. Et du coup, quel que soit là où on est, on sait qu'on a vécu des choses qui se ressemblent. Et je suis persuadé que notre esprit, l'esprit vit, quoi. L'esprit vit et l'esprit peut faire changer les choses. Et on ne se sent pas seul.
C'est bon. C'est ma dernière question, les cocos.
Ok, bon ben.
La dernière question. Ouais. Moi, j'ai envie juste que vous... En gros, mon titre de l'émission, c'est l'écho des racines. Puis, j'aime bien demander à la fin, qu'est-ce que ça évoque, vous? Genre, qu'est-ce que ça vous évoque, ce titre-là, l'écho des racines?
L'écho des racines.
Ouais. Est-ce que ça vous évoque quelque chose?
C'est, en fait, depuis que je suis ici, j'ai vraiment beaucoup rencontré des gens qui veulent mettre en avant leur histoire, leur appartenance. Donc, ça me parle tout à fait. Je trouve que c'est vraiment une préoccupation importante dans cette région-là.
Ouais, on est tous liés à ça, quoi.
Oui, mais c'est vrai. Il faut être juste conscient de ça. Il faut être juste conscient que... c'est ce qu'on disait, c'est la parole qui peut transmettre ça. C'est le conte. Le conte, c'est à la base de tout aussi. On a beau dire, on a beau essayer de se justifier différemment ou bien de vivre autre chose, mais le conte, ça nous ramène à l'essentiel qui est notre socle, tout simplement. Tu vois, parce que c'est vraiment la terre, quoi. Ça part de là. Et après ça, on peut grandir. Donc ça nous permet de grandir.
De faire des branchages.
Ouais, des
branchages. C'est de trouver sa véritable identité.
C'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé. C'était trop bien.
Ouais,
ah bah oui.